Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans cette émission de Kalangu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement. Il s'agit donc du forum de Studio Kalangu, votre émission quotidienne. Installation des nouvelles autorités issues des derniers scrutins au Niger, les grandes attentes des femmes est notre thème de ce soir. Après le déroulement des élections générales de 2020-2021 au Niger, le pays est dirigé par de nouvelles autorités, avec à leur tête le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a officiellement prêté serment le 2 avril 2021. Dans la déclaration de politique générale du gouvernement, présentée par le Premier ministre Ouhoumoudou Mohamadou le 26 mai dernier, il a été indiqué que la prise en compte des droits des femmes fait partie des 7 axes stratégiques de cette DPG. Il s'agit de l'axe relatif à la solidarité et à l'inclusion sociale. Quels sont alors les grands défis qui se posent à la jeune fille nigérienne et à la femme aujourd'hui au Niger? Et quels sont les efforts et actions attendus pour pouvoir relever ces défis? Ce sont là les principales interrogations auxquelles nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Kyari Falmata. Elle est actrice de la société civile nigérienne, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, la CONGAFEN. Bonjour, Madame Kyari Falmata.
Bonjour.
Notre deuxième invitée, c'est Mariam Mahmoudou Djibo. Elle est chargée de programme à l'ONG Femmes Action et Développement, FAD. Mariam Mahmoudou Djibo, bonjour.
Bonjour.
À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de Studio Kalangu au cours duquel nous parlerons des grandes attentes des femmes nigériennes à l'endroit des nouvelles autorités issues des derniers scrutins au Niger. Pour commencer, Madame Kyari Falmata, représentante de la coordination des ONG Associations Féminines du Niger, la CONGAFEN, selon vous, quels sont aujourd'hui les vrais problèmes qui continuent à faire obstacle à l'émancipation de la femme nigérienne et à son autonomisation?
Je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau du studio Kalangu. Mmh. Donc, vous savez, la prise de conscience de la condition féminine au Niger, c'était en 1991 lors de la conférence nationale où la femme était faiblement représentée, et lors des réunions préparatoires et même à la conférence nationale, il n'y avait pas beaucoup de femmes.
Et il y a eu une marche historique.
Alors les femmes ont décidé dans les 8 régions, c'était pas des régions en ce moment, c'était
des départements.
Le même jour, à la même heure, on a fait une marche pour quand même déplorer cet état de fait. Donc, c'est à la suite de ça même que la femme, il n'y avait pas de ministère de la promotion de la femme, c'était une petite direction qu'on a érigée finalement au ministère de la promotion de la femme. Donc, le quota n'existait pas et c'est un processus. Donc, depuis 2000... jusqu'à nos jours, donc, on a lutté. Il ne s'agit pas de la femme citadine seulement. On lutte aussi pour la femme rurale, même si ces femmes-là ne pensent pas qu'on lutte pour elles. Donc, on a réussi quand même à les autonomiser pour qu'elles deviennent un peu indépendantes sur le plan économique et même politique. Parce que si on dit autonomisation, ce n'est pas seulement l'aspect économique. Donc, l'aspect économique, c'est que ces femmes-là ont pu avoir quand même accès à des microcrédits pour pouvoir faire des AGR, des activités génératrices de revenus. Et politiquement, on a fait un éveil de ces femmes-là avec une sensibilisation, même si elles sont analphabètes, même si elles n'ont pas été à l'école, qu'elles puissent être conseillères, n'est-ce pas, dans les mairies, et qu'elles puissent même se présenter à la députation, parce qu'il y a un quota pour ça, pour les analphabètes. Donc voilà ce qu'on a fait pour les femmes rurales.
Aujourd'hui, quels sont alors les grands problèmes des femmes au Niger à l'heure actuelle?
Les grands problèmes des femmes au Niger, c'est que nous ne sommes pas écoutées du quota, mais aussi ce n'est pas respecté. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu satisfaction à 100%. On est toujours en train de lutter pour arracher nos droits, parce que le droit, ça s'arrache. Donc, beaucoup de droits nous sont bafoués. Par exemple, la retraite, la femme, quand elle meurt, elle n'a plus de retraite, etc., etc. C'est-à-dire, si elle meurt, c'est fini, ses enfants ne perçoivent pas la retraite. Mm-hmm. C'est les hommes seulement qui ont une retraite, les femmes n'ont pas de retraite au Nigeria. Mm-hmm. Et on est en train de lutter dans ce sens-là.
Les droits des parents pour les hommes, c'est versé aux enfants, alors que pour les femmes, voilà, il n'y a pas un mécanisme qui permet mécanisme à ceux que les permet, enfants
puissent... On est en train de lutter pour ça. Mm-hmm.
Merci à vous. Mariam Mamoudou Djibo, chargée de programme à l'ONG Femmes Action et Développement. À votre niveau, selon vous, quels sont aujourd'hui les grands problèmes que nous avons et qui concernent particulièrement la jeune fille nigérienne?
Selon moi, les grands problèmes que nous avons, en premier lieu, c'est au niveau de l'éducation. Selon moi, quelles que soient les mesures qu'on aura beau prendre, tant que les femmes et filles nigériennes n'auront pas le niveau d'instruction requis, elles n'auront pas les aptitudes nécessaires, on ne pourra parvenir à quoi que ce soit. Rien que pour le rehaussement du quota dernièrement, il y a eu énormément de problèmes parce que certains leaders politiques estiment que les femmes n'ont pas les aptitudes ou ne méritent pas un tel pourcentage. Donc, il y va que l'éducation des femmes soit renforcée, mais au-delà de la scolarisation, le maintien, l'achèvement, pour qu'on ait vraiment des femmes diplômées, compétentes, compétitives, qui puissent tenir des débats et remplir les rôles pour lesquels elles ont été nommées ou élues. Au-delà de l'éducation, je vais parler de la représentativité féminine et ce, dans tous les secteurs. Tous les secteurs importants, on a du mal à trouver un homme significatif de femmes. Ce sont les hommes qui ont le monopole des secteurs de prise de décision, des postes importants. Donc il y a encore un défi à ce niveau. Les femmes nigériennes doivent batailler pour avoir une meilleure représentation au niveau de tous les secteurs, mais surtout au niveau des organes de décision. Il ne suffit pas d'être juste figurante et malheureusement c'est ce qui est octroyé à la femme nigérienne partout où elle s'engage. Outre cela, il y a l'accès aux revenus. Aujourd'hui encore, les femmes nigériennes souffrent du manque d'accès à la terre et même pour les crédits, les hommes ont plus de facilité pour obtenir des prêts que les femmes, dépendamment d'un certain nombre de critères. Et tout ceci, tant que toutes ces conditions ne seront pas réunies, les femmes nigériennes ne seront jamais pleinement autonomes. Donc il faut qu'on trouve des solutions à tous ces facteurs.
Et quelles sont les actions attendues du côté du gouvernement, justement par rapport à tous ces défis que vous venez d'énumérer?
Au niveau du gouvernement, nous avons entendu le programme du président de la République, nous avons entendu la déclaration de politique générale qui, eux tous, semblent prendre en compte les besoins des femmes. Et à travers leur discours, nous avons pu comprendre qu'ils ont une connaissance, une maîtrise de la situation du pays et des besoins des femmes. Donc nous espérons qu'effectivement, ce qu'ils ont prévu sera mis en œuvre, notamment dans le domaine de l'éducation. À plusieurs reprises, ils ont eu à dire qu'ils vont lutter contre le mariage précoce, créer des infrastructures au niveau des établissements scolaires pour que les filles puissent y rester. Donc c'est déjà un grand pas. Si cela est véritablement mis en œuvre, on ne peut que s'en réjouir. Mais toujours au niveau du gouvernement, il faut que le gouvernement puisse collaborer avec les femmes. Par exemple, le président a rencontré dernièrement les populations de Anzourou, mais sur la table, il n'y avait aucune femme. Alors que je pense que sur les sites, ceux qui s'ouvrent le plus, ce sont les femmes. Donc, il est nécessaire que le gouvernement, que les autorités, de façon générale, comprennent que pour chaque rencontre, que pour chaque décision, on doit impliquer la femme. Les hommes ne vont pas venir parler au nom des femmes. Il faut que les femmes soient toujours représentées afin que leur voix également puisse porter. Autre action que le gouvernement pourrait mener, c'est vraiment la collaboration, l'implication des femmes dans leurs actions. Mais également initier des actions qui vont permettre l'accès aux ressources des femmes. Pour que les femmes nigériennes, vraiment, elles ont plusieurs idées. Aujourd'hui, on le remarque, il y a tellement de femmes entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des projets, mais elles ont du mal à accéder au financement. Donc, s'il pourrait y avoir des mesures pour encourager les financements aux projets des femmes, cela aussi va énormément aider à l'autonomisation de la femme nigérienne.
Merci à vous. Donc, je le rappelle, oui, dans la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement DPG présenté par le Premier ministre Mahamudu Mahamudu, le 26 mai dernier, il a été indiqué que la prise en compte des droits des femmes nigériennes fait partie de cet axe stratégique de cette DPG. Dans ce volet, le gouvernement envisage notamment de renforcer les mécanismes de protection sociale, d'autonomisation des femmes et de gestion des catastrophes. Le gouvernement envisage par ailleurs d'élaborer un document de protection sociale avec la mise en place d'outils de résilience. Il se propose de ce fait la mise en œuvre des programmes permettant aux femmes de sortir de la pauvreté avec une amélioration de ce qui concerne le dispositif de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, avait annoncé le Premier ministre Mahamudu Mahamudu face à la représentation nationale. Quelle analyse par rapport à cette annonce du gouvernement, Madame Kyari Falmata de la Congafen?
Bon, Et vous savez, tout à l'heure, c'est pour l'API. Elle avait parlé d'autonomisation, de l'accès au crédit, aux ressources financières. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 1960, il n'y a pas une banque des femmes pour accéder à ce crédit-là.
La MECREF qui existait, ce n'est pas banque. Une banque, c'est vrai, c'est une mutuelle.
Il y a bien sûr des mutuelles comme CANI, la MECREF et Asusu. Mais il n'y a pas une banque de femmes digne de ce nom au Niger. Donc la femme ne peut pas avoir accès aux ressources financières. Les mutuelles ne peuvent avoir qu'une fourchette de petits crédits. Vous voyez bien, il y a des femmes côtières qui sont milliardaires, alors que la Nigérienne n'a même pas 1 million pour faire les AGR. Les banques ont plus de moyens pour octroyer aux femmes. Les mutuelles, leurs moyens sont limités. Donc, la femme a un visage de pauvreté. Dès qu'on dit femme, la pauvreté, c'est la femme. L'homme n'est pas pauvre. Alors qu'il faut lever cet équivoque-là.
Et quelles sont les actions que le gouvernement mener sur le terrain de façon concrète pour pouvoir relever ces grands défis?
Bon, vous savez, au Niger, nous sommes 52%. Nous sommes les plus nombreuses. Nous sommes plus nombreuses que les hommes, alors que nous sommes les plus misérables. Le grand problème même, non seulement on est pauvre et on n'a même pas confiance en nous-mêmes. Donc il faut que la femme ait confiance en elle-même, qu'elle puisse lutter pour arriver à la hauteur d'un homme. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire. Évidemment, pas physiquement, mais quand même, intellectuellement et autres postes, on peut les occuper. Voilà.
Ça, c'est les femmes que vous appelez à être donc engagées pour être elles-mêmes actrices de leur propre émancipation.
Voilà.
Mais quelles sont les actions attendues du côté du gouvernement pour accélérer justement cette émancipation et cette autonomisation de la femme au plan national?
Le gouvernement doit tenir compte plus de la femme, parce que sans la femme, un pays ne peut pas se développer. Il ne faut pas nous marginaliser, il ne faut pas nous négliger. Il faut créer des emplois pour les femmes, des AGR. Il faut ouvrir des banques pour les femmes, multiplier les mutuelles. Les mutuelles, elles se comptent au bout du doigt. Encore moins des banques spécialement féminines. Donc, c'est cette action que le gouvernement doit mener. Nous luttons, c'est nous dans les partis politiques, c'est nous qui dansons, c'est nous qui cuisinons, c'est nous qui faisons le sale boulot. Et au finish, c'est nous qui payons les pots cassés.
Vous n'avez pas suffisamment de postes, vous pensez?
Voilà. Et elle a eu seulement 50 députés sur les
166. Il n'y a pas encore les 5 députés de la diaspora. À ce niveau, il faut préciser que le quota a été respecté parce qu'au niveau des postes électifs, ce qui est proposé, c'est 25%.
Voilà.
Donc, à l'Assemblée nationale, le quota a été respecté.
Oui,
c'est
ça,
au
là,
niveau du gouvernement que...
Il y a eu une avancée, mais sur le plan du gouvernement, il n'y a pas d'avancée. C'est pour ça qu'on lance une sonnette d'alarme. Quand il y aura le décret pour les nominations des préfets et des gouverneurs, il ne faut pas qu'ils oublient encore les femmes. Parce que surtout les postes de gouverneur, c'est des postes très sensibles. Il n'y a jamais eu de femme gouverneur sauf à Niamey. Alors que toutes les régions se valent. Elles donnent des faux alibis. Préfets, il y a au moins une ou deux femmes seulement, surtout les préfets, pas plus. Donc les maires, quand ils font leur élection, nous occupons... nous sommes en second plan, nous sommes toujours vice-maire. Première vice-maire, deuxième vice-maire.
Il y a eu des maires cette année, des femmes.
Et même à l'Assemblée, évidemment, il y a eu une femme qui a avancé, elle est première vice-présidente de l'Assemblée, si je me souviens, n'est-ce pas? Mais il n'y a jamais eu de femme présidente de l'Assemblée.
Vous attendez cela un jour, une femme présidente de l'Assemblée?
Si vous regardez les photos à l'Assemblée, les différents présidents de l'Assemblée qui se sont...
Il n'y a pas de femme.
Il n'y a jamais eu de femme.
Bien sûr.
Et gouverneur, il y a seulement eu une seule qui a été vite molestée. Vous voyez bien. Donc, et elle n'a pas été remplacée par une femme. C'est comme si nous sommes incapables de mener une région, de commander une région.
On l'a vite enlevée?
Oui, on l'a vite enlevée, on l'a changée par un homme. Pour des raisons que nous ignorons.
Justement, par rapport à la question du quota, on se rappelle en effet que le Niger a adopté en 2020 une loi sur le quota révisée en 2014 qui prévoit pour les femmes un minimum au poste de responsabilité. En octobre 2019, l'Assemblée nationale, à la demande du gouvernement, a rehaussé ce quota pour le mandat électif pour le faire passer de 15% à 25% et de 25% à 30% pour celui des postes de nomination afin de promouvoir l'inclusion des femmes aux postes de responsabilité. On constate cependant que cette loi n'a pas été respectée dans la composition de l'actuel gouvernement, composé seulement de 5 femmes sur les 34 membres, soit une représentativité de 14,70% au lieu de 30%. Selon vous, pourquoi cet état de fait, Madame Kyari Falmata?
Oui, je vous réponds en disant que c'est la faute des partis politiques. Parce que quand il y a des consultations, le gouvernement s'adresse aux partis politiques pour donner la liste des ministres, le nombre des ministres. Mais sur ces listes, les femmes ne sont pas bien positionnées. Et on propose peu de femmes et plus d'hommes.
Donc ce sont les formations politiques
qui font des propositions. Ce sont les formations politiques qui préfèrent sélectionner les hommes. Mmh. Les hommes sont plus favorisés, ils sont complices entre eux, ils sont soudés. Parce que nous, les femmes, on n'est pas soudés. On a même l'habitude de dire un adage que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc c'est la faute des partis politiques. Et même nous, les femmes, on ne lutte pas assez. Mmh. On n'a même pas confiance en nous-mêmes. On n'est pas soudés, on ne lutte pas assez pour respecter. Et le gouvernement doit dire, bon, lui aussi, il a sa responsabilité. Le liste que vous proposez, donnez-nous suffisamment de femmes pour qu'on puisse choisir.
C'est une loi. Il faut cependant dire qu'il y a nécessité qu'elle soit respectée. À qui la faute alors si cette loi n'est pas respectée?
Surtout que c'est nous les femmes qui faisons ces hommes-là. Parce que c'est nous les femmes, on est 52%, c'est nous qui sommes les grandes électrices. C'est nous qui élisons ces hommes-là. C'est notre poids féminin qui fait que ces hommes sont à leur poste aujourd'hui.
Merci à vous. Les attentes, justement, par rapport à ça, Mariam Mahmoud Oujibo, selon vous, c'est une loi, il faut quand même la respecter, ou qu'est-ce que vous en pensez?
Pour ce qui est du non-respect du quota, pour moi, la faute, elle se situe à trois niveaux. Au niveau des formations politiques, certes, parce que ce sont les formations politiques qui communiquent les noms de leurs candidats aux différents
des
postes.
Des gens qu'ils proposent.
Tout à fait. Donc à ce niveau, on voit un manque de volonté, un manque de redevabilité de certains leaders politiques vis-à-vis des femmes au sein de leur parti. Et d'ailleurs, cela a créé énormément de frustration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes influentes qui ont cessé la politique, qui ont quitté leur parti politique parce qu'elles estiment avoir été méprisées, bafouées.
Discriminées
et tout cela. Non, c'est même du mépris. Ça va au-delà de la discrimination parce qu'il y a des femmes qui se sont pleinement investies, qui ont dépensé des millions autant que les hommes, mais qui aujourd'hui n'ont pas eu gain de cause. Donc cela a créé énormément de frustration. Autre problème au niveau du gouvernement également. Comme l'a dit Haja, c'est le gouvernement qui valide les noms, les listes qui sont partagées. Donc du moment que c'est une initiative, c'est même, le projet vient du gouvernement passé, qu'il a rehaussé en 2019. Donc vu que c'est une initiative du gouvernement, le gouvernement devrait justement veiller au respect de cette mesure du quota-là. Donc rejeter, pourquoi pas, les listes qui ne sont pas conformes au respect du quota. Donc si le gouvernement a pu accepter la liste comme ça, c'est que le gouvernement aussi a un parti complice.
Il faut rappeler justement que c'est le président de la République qui nomme les ministres.
Tout à fait. Autre problème, c'est au niveau des femmes. Je suis désolée de le dire, mais elles ne sont pas nombreuses, les femmes qui s'investissent véritablement en politique. Ces 5 ou 6 dernières années, nous avons pleinement travaillé avec les femmes politiques. Et juste après les résultats des élections, nous avons été dans plusieurs régions du Niger afin de nous entretenir avec les femmes politiques, avec les leaders politiques. Et de ces entretiens, il est ressorti que les femmes, au-delà de la mobilisation de l'organisation, elles ne se sont pas réellement investies, notamment côté financier. Oui, les femmes n'ont pas un pouvoir économique autant que les hommes, mais il y en a qui en ont, mais qui ne veulent pas investir leur argent dans la politique. Beaucoup de leaders politiques ont eu à nous faire cas de ça. Il y a également énormément de femmes qui ont quitté leur parti à la dernière minute parce que d'autres partis leur avaient proposé de plus grands montants, ce qui fait qu'elles ont tout perdu. Elles ont perdu leur place dans leur parti, elles n'ont pas obtenu le parti dans lequel elles sont allées aussi. Donc cela fait que certains leaders politiques n'ont pas confiance aux femmes. Surtout quand on sait qu'au Niger, de nos jours, que les femmes s'intéressent davantage à la politique. Donc un leader politique aurait plus confiance au monsieur avec qui il a passé 20 ans, 10 ans de carrière politique qu'à la femme qui vient d'arriver. Il se dit, il ne sait pas si elle va rester ou pas. Donc pour moi, vraiment, le problème se situe à trois niveaux, au niveau des femmes également. J'étais surprise même de certaines réactions de leaders politiques, de ce qu'ils ont vécu, des femmes qui étaient juste avec les équipes comme ça, qui ne prenaient jamais la parole. Elles les accompagnaient sur tous les sites, mais elles ne prenaient pas la parole. Maintenant, au niveau des nominations, ces femmes exigent que leur nom ressorte, vous voyez. Et aussi, les leaders politiques se sont énormément plaints de la loi sur le quota. Je suis une femme, je me bats pour les droits des femmes, mais je me bats pour le mérite également. Aujourd'hui, ce quota, c'est une discrimination positive, certes, mais elle blesse énormément d'hommes. Dans les régions où nous avons été, à plus de 60%, ils ont déclaré que les postes qui ont été donnés aux femmes, c'est parce qu'ils ont dû mettre pression sur des hommes pour qu'ils leur laissent leur voix. Vous comprenez? Quand on regarde les résultats, les femmes ont ramené beaucoup moins de voix que les hommes. Mais pour respecter le quota, on a dû mettre pression sur des hommes pour laisser leur place afin que le quota soit respecté. Donc vous voyez, quand on prend un quota, normalement c'est une mesure provisoire. Aujourd'hui, le quota du Niger, il a été adopté depuis 2000. Ça fait 20 ans que le quota existe. Normalement, en 20 ans, on devrait être à un niveau où les femmes nigériennes sont capables de battre elles-mêmes campagne, mobiliser leur électorat, mériter leur place, plutôt que de continuer ce jeu. Ça a même rendu certaines femmes fainéantes. Vous allez entendre des femmes qui vont vous dire qu'elles savent qu'à cause du quota, elles vont être élues. Donc, elles ne comptent pas sur leurs aptitudes ou ce qu'elles auront fourni comme effort, mais juste sur le quota. Donc, il faut qu'en tant que femmes nigériennes, nous changeons cette mentalité. Il faut qu'on se lève pour aller arracher nos droits, pour mériter nos places. Sinon, à la longue, il risque d'arriver un gouvernement ou des leaders politiques qui ne vont pas l'accepter. Et là, on n'aura pas de choix. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a même pas de plaisir à bénéficier d'un poste qu'on n'a pas mérité. Donc, nous devons vraiment changer la donne.
Et ce que vous souhaitez, c'est que les femmes améliorent leurs compétences.
Tout à fait. Et très malheureusement, justement, il y a beaucoup de femmes qui sont nommées à des postes de responsabilité, mais qui se font vite molester ou lyncher parce qu'on remarque un certain laisser-aller, une certaine négligence dans leur gestion par rapport à celle des hommes. Donc vraiment, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous, en tant que femmes, nous avons énormément de lacunes que nous devons corriger. Ce n'est pas une honte. Et aussi, la faute revient aux leaders politiques. Car énormément de leaders politiques, ils le font exprès dans le choix des femmes qu'ils sont en train de nommer. Il y a des femmes compétentes au niveau de leur parti, mais parce que ces femmes sont autonomes, elles ne se laissent pas faire. On préfère ne pas nommer la femme, là, on prend une bénie oui-oui pour aller la nommer. Alors que la bénie oui-oui, si elle est sur place, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc c'est pour encore discréditer l'image de la femme nigérienne, pendant qu'il y a des femmes compétentes qui ont les moyens, mais on refuse de les nommer. Même pendant ces élections, nous avons eu à observer cela. Donc vraiment, c'est à tous les niveaux qu'on doit faire ce travail.
Madame Kiari Falmata, elle parle de problèmes de compétences qu'ont certaines femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau? Il faut arriver à placer quand même des gens qui sont capables d'apporter des résultats concrets par rapport aux objectifs visés et à la politique générale du gouvernement.
Ça, elle a raison. Mariam a raison. Parce que même au niveau des législatifs, ça s'est passé. On a favorisé beaucoup de femmes grâce au quota, alors qu'elles sont fainéantes, elles n'ont rien foutu, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan intellectuel, elles ne valent rien. Bon, et même pour les postes, les portefeuilles ministériels, il y a une injustice même des chefs des partis politiques. Il y a une injustice qui se fait, du favoritisme qui se fait vis-à-vis, sans cacher. Il y a une grande intellectuelle, une compétente, et on va aller nommer des minables qui ne font pas le poids. Et au finish, le président de la République n'est pas... Il est intelligent. Au finish, il va les molester s'il constate que c'est une mauvaise graine. On a vu beaucoup de cas qui ne peuvent même pas s'exprimer, qui ne peuvent même pas faire une phrase correcte.
Et on les nomme.
Donc, elles n'ont même pas le verbe, elles n'ont rien. Les discours, elles sont attachées à leur papier, etc., etc. Elles sont incapables même de lire même un papier quand on leur dit.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à cet état de fait?
Alors là, on avait parlé de
la promotion
du CV.
Des droits de...
Alors là, les CV, il faut bien les toiletter. Parce qu'il y a des faux CV. Vous mettez des faux diplômes, vous mettez un parcours que vous n'avez jamais fait. On a vu dans ce pays, même les hommes, pour dire que vous avez un master alors que vous n'en avez même pas. Il faut exiger peut-être les documents. Si vous avez un bac, il faut le mettre. Si vous avez une maîtrise, il faut le mettre. Mais dans la composition du CV, il ne s'agit pas que vous avez un master, vous avez un ceci. Il faut faire un dossier complet et vérifier si ces documents-là qu'on fournit. Pourquoi on a contrôlé les BPC et les bacs? On a mis même des gens en prison, des faux bacs, des faux BPC. Donc, il faut faire une composition du dossier au Conseil des ministres. Ça passe ou ça ne passe pas.
Les femmes doivent donc travailler pour renforcer leurs compétences, vous pensez?
Voilà. Il y en a qui mentent, qui disent qu'ils sont des docteurs en ceci, en cela. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui disent qu'elles ont tel diplôme, ce n'est pas vrai. Pour quand même, pour qu'on puisse les nommer. Et puis, il faut respecter ce que vous dites. Moi, j'étais nommée inspectrice des services au ministère de l'Éducation primaire. Pour être inspectrice des services, il faut être cadre A1. Et on a vu des collègues qui sont des cadres, je ne sais pas, BSC ou je ne sais pas quoi, du n'importe quoi, qu'on a nommé des inspecteurs de services. Alors, pour être inspecteur de services, il faut être un cadre à eux. Et on ne les respecte pas. Pour des sensibilités, on ne vérifie même pas. Et on donne un matricule, un nom, et ça s'arrête là.
Et au final, tout cela, ça impacte sur le système du pays.
Ça a des impacts négatifs.
Sur le système du pays.
Alors finalement, pour terminer, par rapport à cet aspect quota, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire urgemment pour que à chaque fois le quota soit respecté et qu'on ne puisse plus revenir sur ce débat non-respect du quota au niveau des femmes?
Il ne s'agit pas de faire des décrets sur le quota, la mise en application dans sa totalité. Il faut appliquer le quota dans sa totalité, surtout sur tous les secteurs. Qu'il s'agisse des postes de décision, qu'il s'agisse des portefeuilles ministériels, il faut appliquer le quota dans toute sa totalité. C'est l'application qui cause problème. Il ne s'agit pas de dire quota, on vous a rehaussé ce quota-là, mais il faut bien l'appliquer. Il faut un suivi, et c'est à nous les femmes de suivre ce quota-là. Je me souviens à l'Assemblée pour ce quota-là, à 3 heures du matin, que les hommes ont décidé d'étudier le quota. 3 heures du matin, quel homme va laisser sa femme sortir à 3 heures du matin pour aller à l'Assemblée? Parce qu'ils savent que les femmes ne vont pas venir. Ils étaient surpris de nous voir à l'Assemblée pour arracher nos droits.
Mariam Mahmoudou Djibo, pour terminer, par rapport au quota, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'à chaque fois le quota puisse être respecté au Niger par rapport justement aux postes nominatifs et électifs?
Les femmes nigériennes doivent se mobiliser pour réclamer le respect de cette loi sur le quota. On l'a vu, on espérait qu'il y ait un grand mouvement à l'issue du non-respect du quota, mais pratiquement rien n'a
au
été fait.
Au niveau du gouvernement?
Oui, juste des petites rencontres isolées, et ce n'est pas suffisant. La preuve, on n'a pas abouti à une modification quelle que ce soit. Donc il faut que les femmes nigériennes aussi, les femmes leaders de la société, puissent se mobiliser, être solidaires et défendre la cause féminine. Pas des intérêts singuliers et individuels, mais vraiment la cause de la femme. Même si moi je n'en bénéficie pas directement, mais je dois me soulever pour ma sœur.
Les attentes à l'endroit des autorités dans ce sens, puisque c'est à elles quand même de faire tout également pour contribuer à faire respecter ce quota. Oui.
Il faut qu'on vienne dans une place publique, la place de la concertation. Toutes les femmes, on n'a pas à marcher encore, à battre le pavé. On se donne rendez-vous, on donne une permission, on écrit en bonne et due forme qu'on doit se rencontrer à la place de concertation. On ne va même pas marcher pour que des badauds rentrent dans les rangs et puis casser ceci ou cela. On se donne un grand rendez-vous.
Vous pensez donc, comme madame, que c'est ce qu'il fallait faire pour rehausser le quota qui
voilà,
est de 5%
un grand rendez-vous
dans le gouvernement?
Oui, on fait une conférence de presse où on fait une grève de la faim. On fait une grève de la faim, une sorte de carême toute la journée, on est au soleil. Peut-être que le gouvernement va nous regarder.
Tout cela a manqué, vous pensez?
Tout cela a manqué et puis il n'y a pas de cohésion. Et on a peur. La femme a peur d'aller en prison, elle a peur, si je fais ceci, on va m'emprisonner. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi. C'est nos droits qu'on est en train d'arracher. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un, on n'est pas en train de bafouiller les droits de quelqu'un. C'est nos droits qu'on est en train de réclamer. Et je crois qu'on a le droit de se rencontrer à une place quelconque pour réclamer nos droits.
Il y en a qui disent aussi qu'il y a certaines qui ont peur de dénoncer à cause justement de certains facteurs.
C'est ça. Pour éviter de léser leur intérêt.
Parce que si je marche, on va m'enlever de mon poste. Ou bien c'est ça surtout. Mais il faut oser. Il faut oser. Il y en a qui ont osé dans ce pays-là.
Merci à vous. Selon les chiffres officiels de l'Institut national de la statistique INS, le taux d'alphabétisation en 2019 au Niger est de 29%, avec 42,8% pour les hommes et 17,1% pour les femmes. On voit là une disparité dans la jouissance du droit à l'éducation. Quels sont les facteurs qui seraient à la base de cette situation? Mariam Mahmoudou Djibo.
Premier facteur, je dirais la pauvreté. La pauvreté à tous les niveaux.
C'est ça qui empêche aux jeunes filles d'aller à l'école, vous pensez?
Énormément, oui. Dernièrement, j'ai fait une publication sur Facebook, une commune dans laquelle il y a un seul CEG pour 22 villages. Et ces 22 villages, certains des villages sont à 50 km. Donc, dans le village, là où il y a le CEG, ceux qui habitent là-bas ont décidé de ne plus prendre... de ne plus accueillir des élèves chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Les parents des élèves n'ont pas les moyens de payer des vélos ou quoi que ce soit, un transport à leur enfant pour venir. Ou même lorsque l'enfant est chez un tuteur, il faut envoyer quelque chose, soit en nature.
En comprenant la pauvreté
donc,
des ménages,
ceci,
vous pensez qu'elle affecte plus les filles que les garçons.
Mais également, les ressources prévues par l'État au niveau de l'éducation. Mm-hmm. Pendant les régimes passés, le pourcentage alloué à l'éducation était moindre, mm-hmm. quand on sait que l'éducation est un facteur primordial pour développer un pays. Mm-hmm. Si pour 22 villages, il n'y a qu'un seul collège, c'est qu'à ce niveau aussi, on n'a pas investi assez de ressources pour créer les conditions afin qu'il y ait suffisamment de villages dans mm-hmm. la zone pour mm-hmm. que les enfants puissent aller à l'école. Donc pour moi, la pauvreté est un facteur réel qui empêche l'éducation des jeunes filles.
En dehors de ça,
on a le mariage précoce et forcé. Mm-hmm. Comme on le sait, le Niger a le taux le plus élevé au monde. Mm-hmm. Certaines statistiques parlent même de 76% de filles mariées avant l'âge de 18 ans. Même ce mariage précoce aussi, si on peut regarder ses causes, il y a la pauvreté encore. Donc mm-hmm. vous voyez cela. Outre cela, il y a le faible niveau des enseignants même. Il n'y a pas de qualité au niveau des enseignants. Mmh. Aujourd'hui, malgré le concours qui a été fait, si vous allez aller dans des écoles, vous allez trouver des enseignants incapables de vous formuler une seule phrase correctement mmh. en français. Qu'est-ce qu'ils vont inculquer à ces enfants ? Mmh. Il y a le manque d'infrastructures scolaires. Beaucoup de parents se disent que c'est pour envoyer leur enfant s'asseoir à même le sol, écouter quelqu'un sans tableau ni quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine d'envoyer leur enfant mmh. à l'école. Donc, vous voyez, il y a tous ces facteurs.
Que recommandez-vous alors afin que la femme nigérienne puisse être mieux outillée au plan éducatif et arriver à aider l'État à relever les défis du moment?
Au niveau de l'État, c'est que l'État respecte ses engagements. L'État a promis des internats, des classes en matériaux définitifs, des cantines scolaires. Donc, je pense que si tout ceci est effectivement mis en œuvre, mmh. on pourra parvenir à une meilleure taux de scolarisation de tous les enfants de façon générale, pas que les filles. Au niveau des parents aussi, que les acteurs de la société civile et même l'État devront tous continuer la sensibilisation afin qu'on comprenne le bien fondé de l'éducation. Mmh. Même si on n'en voit pas les fruits tout de suite dans l'immédiat, c'est quelque chose dont toute la famille va jouir sur le long terme. Mmh. Mais également qu'on ait une loi pour interdire le mariage d'enfants. Et c'est mmh. ce qui a échoué au Niger.
Il y a une protection qui avait été assurée à travers le décret de 2017 portant une protection de la scolarisation
pas
de
vraiment,
la jeune fille.
Parce que ce décret ne prévoit aucune sanction pour les auteurs de mariage. Mmh. Le décret dit juste qu'il protège, soutient et accompagne les filles en milieu scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire? Et le décret dit aussi que les personnes qui commettent des violences à l'endroit de la jeune fille doivent être dénoncées auprès des autorités compétentes. Qu'est-ce mmh. qu'une violence à l'égard de la jeune fille? Le décret n'a nullement parlé de mariage d'enfants ni quoi que ce soit.
Il y a beaucoup d'insuffisances
au niveau du décret. Et le mm-hmm. décret n'est pas une solution parce que beaucoup d'acteurs ne respectent pas véritablement un décret. Alors que lorsque c'est une loi, ça a plus de poids. Aujourd'hui, même les juges, lorsqu'on va vers eux, ils nous disent qu'il n'y a pas de loi, donc ils ne peuvent rien faire.
Donc, Mme Falmata Kiari, c'est de nous dire alors à votre niveau, selon vous, on a parlé de compétences, telles que ça a été dit, de la femme nigérienne. Pour qu'elle soit compétente, il faut qu'elle reçoive une éducation de qualité. Que faire pour améliorer tout cela?
Et elle a touché du doigt là où je voudrais dire la jeune fille. Mmh. Une année à Zender, il y a eu 2000 renvois. Parce que, comme elle le dit, il n'y a pas de centre d'accueil. Les familles d'accueil attendent quelque chose de ces enfants-là pour les héberger. Mmh. Il n'y a pas d'internat. Les filles parcourent des distances, des kilomètres pour aller à l'école. Et une fois arrivées à l'école, elles ne font que somnoler. Donc, même la distance compte. Mmh. C'est pour ça qu'on a fait des mini-CEG.
Avant d'arriver à l'école, elles sont fatiguées.
Elles sont fatiguées. Des mini-CEG qui, certes, ça a résolu les problèmes à moitié. Et les filles aussi, les parents les marient vite parce qu'il y a un souci. Mmh. Quand vous avez une fille puberte qui est devenue adolescente, les parents tremblent parce que à cause des grossesses non désirées. Mmh. Alors, ils préfèrent faire épouser leur fille mmh. à quelqu'un plutôt que de la laisser dans les rues avoir une grossesse non désirée. Il y a mmh. un problème de sexualité qui se pose. Si ces filles-là étaient informées, si elles étaient sensibilisées, elles n'allaient pas avoir de grossesse non désirée parce que le sexe est tabou au Niger. Mmh. On n'en parle pas dans les familles. Mmh. Personne. Même les menstrues que les filles voient chaque mois, c'est dans la rue que tu l'apprends. C'est une copine qui va te le dire ou bien une vieille femme. En tout cas, tu l'apprends dans la rue, mais jamais dans la famille.
Vous avez donc parlé de la question de la scolarisation de la jeune fille.
Oui.
On a vu que les nouvelles autorités, au niveau du gouvernement en tout cas, il a été dit qu'il va y avoir cette promotion de la scolarisation de la jeune fille et surtout son maintien à l'école. Quelles sont vos attentes?
D'achèvement le taux d'achèvement. Mais il ne s'agit pas de le dire comme l'a dit Mariama Mahmoud. Il ne s'agit pas de dire que faire un beau discours, elle l'a dit, il faut une application. strict et un suivi.
Le gouvernement a justement prévu la construction des internats
etc.
Est-ce une bonne chose?
C'est une bonne chose, mais il faut quand même cadrer bien les choses. À l'internat, il y aura plus de 500 filles, plus de 1000 filles. Il faut les encadrer. Ce n'est pas parce qu'il y a un internat, on les a parqués comme des moutons, que ces filles-là auront une bonne éducation. Il faut qu'il y ait des gens de bonne moralité pour encadrer ces filles-là.
Ils font un grand suivi à ce niveau.
Merci
à vous. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, 30% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 75% avant 18 ans au Niger. Ce qui veut dire qu'au Niger, 3 filles sur 4 se marient pendant qu'elles sont mineures. Est-ce un obstacle, vous pensez, le fait qu'on trouve beaucoup de filles qui se marient mineures, Madame Falmata Kiari?
Oui, c'est des préjugés qui le font. Il y a l'islam qui dit que dès que la fille a un certain âge, il faut la marier. C'est conseillé. Et les parents, c'est la peur qui fait qu'ils marient vite leur fille. Même si elles sont dans le système éducatif, on a vu. Moi, j'ai été sincère, on les retire du système éducatif pour qu'elles puissent se marier. Or, maintenant, l'État, pour préserver ces filles-là, pour les maintenir à l'école, il ferme les yeux sur le mariage des filles qui sont au lycée. On n'en parle pas. C'est quand même pour permettre à la fille, si elle tombe même grosse dans le premier cycle, on peut la tolérer jusqu'en troisième, mais il ne faut pas exagérer. Donc, c'est ça le grand problème. Voilà.
Mariam Mamoudou Djibo, quelle piste de solution préconisez-vous face à cette situation?
Il est nécessaire que nous ayons une loi qui va interdire le mariage d'enfants, fixer un âge pour le mariage.
C'est fixé déjà dans le code civil?
15 ans, donc
qui parle
rehausser.
De 15 ans oui. Révolus pour les filles et 18 ans pour les garçons.
Il faut rehausser à 18 ans parce que nous
vous
devons
pensez
même...
qu'au Niger, il faut faire en sorte que les filles attendent 18 ans pour se marier au
oui,
lieu de 15 ans.
Je le pense. Et le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales telles que...
La convention relative aux droits de
tout
l'enfant
à fait, qui
de 1989, oui.
Tout à fait, qui prévoit 18 ans pour l'âge de mariage, donc qu'il est primordial que le Niger puisse harmoniser ses tests. Et à l'issue de différents, tels que l'EPU, à l'issue de différents rencontres internationales, il est toujours recommandé au Niger d'harmoniser cet âge de mariage. Donc on ne peut plus continuer d'être en marge des différents pays.
Mais déjà, on a dit à ce niveau qu'il y a 30% des jeunes filles qui se marient avant l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, nous avons 30% de jeunes filles qui ne respectent pas les recommandations du code civil.
Tout à fait.
Si on rehausse, est-ce que ça va être respecté, vous pensez?
On aura déjà acquis quelque chose et sur la base de cet acquis, on va faire le travail pour aller dans le sens de respecter la nouvelle loi. Et aujourd'hui,
donc.
En termes de droit hiérarchie, de droit, la norme internationale, elle prime sur la loi nationale. Donc aujourd'hui, au Niger, on devrait cesser de parler des 15 ans, mais plutôt se conformer aux 18 ans. La loi nigérienne doit se conformer aux conventions qui ont été ratifiées. Si le Niger ne voulait pas atteindre cette tâche, il devait émettre des réserves ou ne simplement pas adopter ces lois. Donc on ne peut plus continuer cela. Au-delà de cela aussi, il faut créer les conditions pour les parents d'avoir un certain nombre de revenus. Lorsqu'ils seront moins pauvres, ils seront moins tentés de donner leur enfant en mariage, peut-être. Il faut également les rassurer. L'éducation à la sexualité, c'est tabou ici au Niger, alors que ça a un bien, ça a des avantages, parce que ça permet aux jeunes filles, aux jeunes filles et même jeunes garçons de savoir quels sont les risques qu'ils encourent, mais également de pouvoir mieux se préserver, ou même de s'abstenir, Mais lorsqu'on continue d'en faire un tabou, les enfants sont curieux, souvent ils s'adonnent à la chose sans même savoir ce que c'est. Donc ce n'est qu'après les dégâts que la personne saura que j'ai commis ce que je ne vais pas commettre. Alors que lorsque tu es sensibilisé à l'avance sur les conséquences de la chose, tu ne vas pas la commettre. Donc il est nécessaire qu'on puisse penser à cela.
Merci à vous.
Il faut vulgariser ces textes-là.
Ça fait partie de vos attentes.
Oui, oui. Il faut vulgariser les textes, les mettre à disposition du public en langue, leur expliquer et faire une sensibilisation. Une fille qui se marie précocement sera victime de fistules. Ils le connaissent, ça a porté fruit. On a montré, on a fait des films, n'est-ce pas? On a montré qu'une fille qui se marie à 12-13 ans, il y a de fortes chances qu'elle soit fistuleuse au moment de l'accouchement. S'ils voient ces images vulgariser davantage, faire une large diffusion des textes et de ces images, je crois que les parents vont prendre conscience. C'est la non-prise en compte des parents qui amène tous ces
problèmes. Ce que vous souhaitez, c'est donc des sensibilisations.
Des sensibilisations.
Afin qu'on ait moins de jeunes filles très vite mariées.
Oui, à travers des télé-débats. Et on propage ce film-là, on le vulgarise. Comme ça, ça les interpelle. Voilà. Et même les filles il faut les sensibiliser. Les vrais acteurs, c'est elles. C'est elles qui sont victimes. Donc les victimes, il faudrait les sensibiliser.
Dans le même registre, il faut noter que selon l'Institut national de la statistique, INS, le taux de fécondité au Niger est de 7,6 enfants par femme, ce qui constitue l'un des taux les plus élevés au monde. Quelle analyse par rapport à cet indice également, Madame Falmata?
Ça, c'est vrai. Au Niger, on a une démographie galopante. Et il y a des régions où la démographie est plus galopante que certaines. Par exemple, prenez Maradi, Zender, mine de rien, une femme peut avoir 10 enfants, jusqu'à 16.
Sinon, de façon générale, est-ce que vous pensez que ça doit être un signe de force, d'opportunité ou bien un obstacle selon
C'est
vous?
Un obstacle parce que on ne veut pas entendre ça espacer les naissances ou quoi. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent chaque année. Or, ceci les fatigue physiquement, moralement, financièrement. Imaginez, en 7 ans, vous avez 7 enfants. Et des fois, il y a même des jumeaux qui vous surprennent, qui surgissent à l'espace de ce laps de temps. Donc, c'est une question de mentalité qu'on espace un peu nos naissances.
Merci, on vous a bien compris. Mariama Mamoudou Djibo, de l'ONG Femmes Action et Développement. Que peuvent faire les nouvelles autorités face à cet état de fait?
Donc, les nouvelles autorités pourraient prendre les mesures pour améliorer l'accès aux centres de santé, aux populations nigériennes de façon générale, mais aux femmes en particulier qui font plus recours. Également, que dans ces centres de santé, il y ait l'assistance la plus nécessaire aux femmes et filles qui veulent utiliser des moyens contraceptifs. Car on le sait, dans la réalité, ce n'est pas un nombre suffisant. Mais je crois que le plus grand travail revient au niveau de la population. Car c'est une question de bien-être de tout un État, de toute la République. Et ça concerne individuellement tout un chacun. Aujourd'hui, on le voit, le phénomène qui se développe dans les villes, la mendicité, la prostitution et tout ceci sont des conséquences de cette forte démographie qu'on n'arrive pas à gérer. À l'heure actuelle, le Niger n'a pas les moyens d'utiliser cette démographie comme une opportunité. Donc, il est nécessaire que chacun comprenne qu'on doit espacer les naissances, mais également s'assurer aussi qu'on a les moyens ou qu'on peut offrir une éducation de qualité à ses enfants. Il ne suffit pas juste de faire des enfants et de les abandonner à la rue. Il faut que chacun comprenne cela. Donc pour moi, le plus grand travail revient vraiment à la population.
Merci à vous. C'est votre avis. Oui.
Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un état d'esprit un peu archaïque. Plus vous avez des enfants, plus vous avez des bras valides pour travailler dans les champs. Parce que le Niger est un pays agricole.
C'est ça, les gens pensent souvent.
Nous sommes un pays à moitié rural. Donc, à 90% rural, il faut des bras valides. C'est pour ça que les paysans se marient à 3-4 femmes pour avoir le maximum d'enfants, pour avoir des bras valides pour travailler dans les champs. C'est l'esprit initial en milieu rural.
Mais et ville, quel est votre souhait par rapport à ça?
C'est une sensibilisation. Qu'on dise qu'on espace les naissances. Elle l'a dit, que les centres de santé prennent leurs responsabilités pour sensibiliser le maximum des gens pour vraiment espacer les naissances, pas empêcher les naissances, mais au moins les espacer, pour que la femme puisse se reposer physiquement, moralement. Et ça n'empêche pas que vous allez avoir au moins 4 ou 5 enfants, ça ne vous empêche pas d'avoir vos 4 ou 5 enfants,
Madame Falmata,
dans un temps espacé.
Kiari, merci beaucoup. Avez-vous d'autres attentes, notamment dans le domaine du monde rural, à l'endroit des nouvelles autorités?
Que l'État accompagne vraiment les femmes rurales. Elles ont besoin d'accompagnement, de suivi. Et elles ont besoin d'être écoutées parce que ce sont des femmes sans voix. Elles n'ont pas accès aux médias, ni aux médias communautaires, ni à la télé, ni à la radio. Nous sommes leurs porte-parole. Que l'État se penche sur le cas de ces femmes-là pour les alléger. Elles sont déjà allégées parce qu'elles travaillent 21 heures sur 24 heures. Mais maintenant, au moins, elles travaillent au moins 12 heures avec les moulins, etc., etc. Mais ça ne suffit pas.
L'État doit les accompagner davantage. En quoi faisant, par exemple,
alors,
rapidement?
L'accès au crédit, comme elle le dit, et leur permettre d'avoir du petit bétail pour élever et vendre, leur donner de l'engrais pour qu'elles puissent faire des cultures maraîchères, etc., etc.
Merci.
Allez,
à vous.
Voilà.
Mariama Mamoudou Djibo de l'ONG FAD, un mot pour terminer. Nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum. Par rapport aux attentes, justement.
Donc, mon mot pour terminer, c'est que nous avons beaucoup d'espoir en la déclaration de politique générale et nous avons les yeux grandement ouverts. Nous attendons de voir sa concrétisation.
Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème installation des nouvelles autorités issues des derniers scrutins au Niger, les grandes attentes des femmes. Nous étions en compagnie de Madame Kiari Falmata. Elle est actrice de la société civile nigérienne, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, la Congafen, et Mariam Mamoudou Djibo. Elle est chargée de programme à l'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger. Nous remercions nos deux invités d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de Studio Kalangu, grâce auxquels vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Dégé pour la modération de ce forum. À la technique côté son, nous avons Seyni Saka et à la réalisation vidéo, Mustapha Ayouba. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.